Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, Armand Dubois au micro, heureux de vous retrouver, en espérant qu'il y a plein de soleil dans votre vie. Notre invité aujourd'hui est à sa manière une sorte de soleil, puisqu'il rayonne comme comédien et concepteur théâtral depuis plus de 20 ans. Diplômé de l'École de théâtre de Saint-Hyacinthe, il a mis sur pied un programme préparatoire aux grandes écoles de théâtre au cégep Marie-Victorin, programme qu'il dirige toujours. Et en plus, il enseigne l'interprétation, la dramaturgie, l'histoire du théâtre et la littérature. Il prête sa voix à la publicité et à de nombreux films documentaires ou pédagogiques. Il est aussi spécialiste en mesures d'évaluation pour le ministère de l'Éducation et la Direction de l'enseignement collégial, pour qui il a conçu des fiches descriptives et d'évaluation dans le domaine du français langue d'enseignement. Avec nous aujourd'hui, Pierre Brodeur. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous avez une carrière un peu en dents de scie, si j'ose dire.
Oui, à vous entendre parler, c'est ce que je réalise aussi.
Oui, des fois, on se surprend soi-même à découvrir que le parcours est un peu sinueux, mais tout aussi intéressant.
Oui, absolument. En fait, on est dans un métier où on doit se partager une grande tarte et on se rend compte que plus on aura de points diversifiés, plus on risque de travailler et de pas s'ennuyer.
Oui, d'autant que le métier de comédien n'est pas un métier facile. Au plan uniquement de l'interprétation, ce n'est déjà pas facile. Il faut apprendre des textes, il faut jouer. Mais toujours faut-il trouver également du travail. Et cela, ce n'est pas donné à tous les comédiens parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
Effectivement. Voilà pourquoi on est dans un métier où on nous encourage beaucoup à créer nos propres emplois. C'est peut-être un petit peu ce qui a fait que je suis devenu aussi éclectique aussi. Quand j'ai commencé à enseigner et à partager ma passion du théâtre, c'était aussi pour me trouver un autre boulot à côté parce que je voulais pas abandonner le théâtre. Mais déjà, en théâtre, faut créer son emploi, créer des troupes. J'ai déjà eu ma troupe de théâtre pour enfants quand je suis sorti de l'école. J'ai eu le bonheur de commencer avec TACCOM, le théâtre à la carte, pour... faire du théâtre d'entreprise. Donc, il faut diversifier beaucoup et accepter de pas nécessairement avoir son nom sur la marquise du TNM.
Vous parlez du théâtre d'entreprise. Ça, c'est un volet dont on va pouvoir parler parce que c'est assez particulier comme projet et ça fonctionne relativement bien. Mais auparavant, si on recule dans le temps, lorsque vous étiez jeune et que vous avez annoncé à papa, maman que vous vouliez faire du théâtre ou devenir comédien, j'imagine que c'est pas une nouvelle qu'on reçoit avec grand plaisir quand on se reporte à l'époque.
Oui, oui, absolument. On est au milieu des années 70. En fait, mes parents avaient rien contre le fait qu'on en parle, rien contre le fait que j'en fasse de façon amateur. Mm-hmm. J'étudiais en sciences administratives au cégep.
On était loin du théâtre. Là.
J'avais l'air loin du théâtre. Mais je savais bien que annoncer que j'irais faire du théâtre, ma carrière, mon métier, ça passerait pas nécessairement comme du beurre.
Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que non, ce ne sera pas comptable ou ce ne sera pas un administrateur que je ferai, ce sera un acteur?
Mon premier cours de calcul différentiel et intégral, première session, première année de cégep, j'ai compris que j'étais pas à ma place. Je regardais tout le monde autour de moi qui avait l'air à s'amuser comme des petits fous.
Mais il y a quand même une marge entre le fait de quitter le secteur de l'administration des sciences et s'en aller vers un secteur qui est beaucoup plus large, celui des arts d'interprétation.
Mais en fait, avec un recul, je me rends bien compte que si je suis allé en administration, c'est parce que j'avais peur d'aller en art. Parce que
Intéressant, ça.
J'aurais pas fait un bon comptable, c'est clair. J'étais pas fait pour ça. J'étais pas fait pour aller travailler dans un bureau. J'avais pas du tout cette passion-là. Je passais beaucoup plus de temps à faire du théâtre amateur à Grimbay que de temps que à mes études. Là.
Et pourtant, vous, d'une certaine façon, vous avez réussi à concilier les deux parce que vous vous êtes retrouvé ensuite au sein d'une entreprise. Peut-être pas comme le directeur de l'entreprise, mais où vous avez touché à l'administration.
Absolument. Mais même avant ça, j'ai eu ma troupe de théâtre pour enfants. Voilà. Où je devais faire l'administration, oui. Faire les demandes
donc
de subvention.
Donc, une corde de plus à son arc.
Une corde de plus, mais je peux pas dire que c'est une corde que j'apprécie plus que les autres.
D'accord. Mais je reviens à l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui vous a donné le feu sacré pour dire « j'aimerais ça jouer »
C'est probablement le metteur en scène que j'ai eu quand j'étais en secondaire 5. Donc, on recule de beaucoup dans le temps. J'étais en secondaire 5. On montait « Médium saignant » de Françoise Loranger. On était à Grimbay. C'est Pierre Ferland qui montait ça. Un frère enseignant qui avait une passion pour le théâtre, qui a réuni 22 comédiens. On est allé dans des camps de théâtre. Il faisait venir des comédiens pour nous donner des ateliers. On avait tellement de plaisir que je me disais, dire qu'il y en a qui en vivent. Mm-hmm. Et je pense que ça, c'est la piqûre.
Alors, on va se replonger à cette époque. Vous nous avez amené de la musique. La première pièce que vous avez choisie, elle est d'Éric Satie. On sait que Satie a été assez éclectique aussi dans sa production musicale.
Oui, absolument.
Et il a créé des œuvres qui sont d'ailleurs assez surprenantes. Vous avez choisi Le piège de Méduse.
Oui.
Il y a une raison?
Oui. Pour justement l'éclectisme qui me représente un peu à l'intérieur de ça, pour le plaisir de cette pièce-là. C'est une pièce qui est à la fois solitaire et rassembleuse.
Alors, on l'écoute. De retour à l'émission Au gré du temps, Armand Dubois au micro, je reçois aujourd'hui M. Pierre Brodeur, un comédien, administrateur, comptable, tout ce que vous voulez. Ou à peu près.
Ouais, administrateur peut-être, comptable, ce serait faire injure à la profession.
Non, je mentionne cela parce que vous avez eu un jour l'idée de faire du théâtre d'entreprise. Qu'est-ce que c'est ça?
En fait, du théâtre d'entreprise, je trouve personnellement que c'est la chose la plus géniale qui puisse exister. C'est une idée qui vient de Christian Poissonneau et de Hélène Bouchard, qui sont les deux membres fondateurs de cette troupe-là. Moi, je suis le premier, donc le plus vieux pigiste de la compagnie qui a cette année 25 ans. Théâtre d'entreprise...
Où vous concevez d'ailleurs les textes,
je conçois
les
des textes, je mets en scène et je joue.
Parfait.
Donc, au départ, le théâtre d'entreprise, ça se voulait uniquement un déclencheur. On a essayé ça comme ça en se disant, on va aller dans les entreprises et au lieu de présenter une conférence en entrée de jeu pour partir la journée, partir le colloque, le congrès, au lieu d'annoncer de façon monocorde ce qu'on a à leur annoncer dans une journée ou leur dire, regardez, service à la clientèle, c'est pas comme ça que ça se fait, vous devriez faire ça différemment. On a donc eu l'idée de créer du théâtre sur mesure, d'où théâtre à la carte. Mm-hmm. Donc, de créer sur mesure du théâtre pour remplacer la conférence. Donc, on arrivait, au départ, c'était la surprise. Après 25 ans, on commence à être connu, mais au départ, c'était la surprise. On entrait dans le milieu de travail, donc c'est pas les travailleurs qui se déplaçaient, c'est nous autres, et on leur présentait une courte pièce, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 45 minutes, suivi ou non d'échanges, pour leur montrer, par exemple dans le service à la clientèle, leur montrer par le mauvais exemple ce qu'on ne devrait pas faire. C'est jamais moralisateur, ça se veut généralement humoristique, parfois dramatique, mais généralement humoristique. Et le message passe drôlement bien, parce qu'au théâtre, on se reconnaît peut-être pas, mais on reconnaît son voisin assurément.
En fait, on permet aux entreprises de livrer un message ou quelques messages, soit à des clients, soit à des employés, ou encore à des partenaires, à l'égard d'un objectif que cherche à atteindre l'entreprise.
Absolument. Je vous donne un exemple. On avait joué un spectacle sur la santé-sécurité au travail. Dans le cadre de la semaine de santé-sécurité, on est dans une usine de couches. On est au cœur de l'usine. Les employés ne comprennent pas pourquoi on leur a demandé d'arrêter les machines pendant une demi-heure à 2h30 l'après-midi. Et ils voient trois comédiens arriver. On recrée leur quotidien en montrant toutes les niaiseries qu'il faut pas faire, en exagérant bien sûr, et on clôt tout ça puis on s'en va. Et eux autres, le lendemain, avaient une rencontre de discussion dans le cadre de leur semaine de santé-sécurité.
Donc, on suscite la réflexion.
Donc, on suscite la réflexion. Parfois, ça peut juste être pour remercier des gens aussi. On est déjà allé jouer à la baie James pour remercier les travailleurs de tout le travail accompli. On a donc fait un show historique leur montrant, voici ce que vous avez fait depuis 7 ans dans ce chantier-là. Regardez d'où vous êtes parti, regardez où vous êtes arrivé aujourd'hui. Bravo, vous avez fait du beau travail.
J'ai eu le plaisir de voir une comédienne de ce groupe à l'œuvre dans le cadre d'une campagne de sécurité routière où elle jouait un peu le rôle de la personne citoyenne âgée qui assiste à la conférence de presse et qui ne sait pas de quoi ressort l'objectif de cette campagne de sécurité routière et qui s'inquiète de voir peut-être la création soit d'une autoroute devant sa maison ou d'un passage piétonnier qui serait au risque et qui pose des questions très pertinentes soit au maire, soit au directeur de police et tout le reste. Et c'est évidemment l'occasion pour le maire ou le directeur de police de livrer le message à l'égard de leur campagne de sécurité routière, et ça a beaucoup d'effets positifs.
Absolument. Les réactions sont très positives. Les gens embarquent beaucoup et ils ont hâte de nous retrouver. Quand ils savent, il arrive qu'on fasse des colloques complets où on revient épisodiquement. Mm-hmm. Sur 3 jours, on peut avoir 6, 7, 8 interventions, même animer leur discussion. Et ils ont hâte de nous voir arriver. Et parce qu'on est comédien, parce qu'on ne vient pas de leur milieu, mais qu'on a l'air de bien le connaître, ils n'ont pas peur de se livrer à nous autres.
Donc, il faut être sensible aux clients, dans
oui,
une
très.
Certaine mesure,
oui.
Très sensible. Il faut adapter le message au jeu, et c'est là où vous intervenez en créant des scénarios qui sont soit humoristiques, comme vous le disiez, ou dramatiques, ou à tout le moins qui vont susciter la réflexion.
Absolument. Mais en même temps, c'est passionnant parce que, oui, on est à l'écoute, mais en même temps, imaginez tout ce qu'on apprend. Je suis allé dans des milieux dans lesquels je ne serais jamais allé.
Alors ça, c'est votre quête personnelle, probablement.
Ça fait partie de ma quête personnelle.
Je mentionne cela parce que vous nous avez amené cette belle chanson de Jacques Brel, qui rappelle vos années d'adolescence ou de jeune période adulte.
Oui, tout ce qu'on rêve de faire, tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on devrait rendre possible.
Jacques Brel.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.
Une chanson éternelle que cette quête de Jacques Brel, qui m'amène à vous poser la question, Monsieur Brodeur, est-ce que vous avez atteint l'objectif que vous vous étiez fixé quand vous aviez 20 ans?
Il faut être honnête, hein? Non. À 20 ans, on a des rêves, puis il faut avoir des rêves. J'enseigne et j'arrête pas de dire à mes élèves, ayez des rêves. Il faut avoir des rêves plus grands que nature. On rêve de changer le monde, on rêve d'avoir la carrière la plus éblouissante, on rêve de tellement grand que ça nous étouffe même d'en rêver. Mais je dois dire que j'ai trouvé, peut-être pas tout ce que je voulais faire, mais le plaisir, et un plaisir décuplé dans tout ce que je fais.
Particulièrement, Pierre Brodeur, parce que vous avez mis au point, on peut parler d'une mise au point, un programme spécifique au plan du théâtre, dans un cégep, le cégep Marie-Victorin. Oui. Vous y enseignez d'ailleurs toujours et vous dirigez le programme de théâtre. Donc, vous êtes en contact avec de futurs comédiens.
Absolument.
Et est-ce que vous êtes sensible à leur quête, à eux, tout en étant aussi, j'allais dire, sincère quant à l'avenir de l'articulation de leur profession?
Oui, oui. En fait, quand j'ai mis ça sur pied, ce programme-là, ça fait maintenant 15 ans, c'est quand le Cégep Marie-Victorin est passé de privé à public. Mm-hmm. Le ministère nous a autorisé à ouvrir certains programmes. Donc, j'ai mis ce programme-là sur pied en essayant de mettre sur pied un programme que j'aurais aimé suivre avant d'entrer en école de théâtre. Je suis rentré trop jeune à l'école de théâtre. Je suis rentré à 17 ans à l'école de théâtre, c'est trop jeune. J'étais prêt à rentrer quand je suis sorti.
Vous avez tout fait trop jeune. Vous vous êtes marié à 21 ans.
Ben oui.
Vous étiez père à 23
ans. Ben oui.
Et puis à 26, vous aviez déjà deux enfants. C'est à peu près ça. Tout va à une vive allure chez vous, là.
Oui, mais remarquez, je suis encore jeune, donc il me reste du temps pour faire plein de choses. Ouais,
alors revenons donc à ce programme.
Donc, ce programme-là, c'est un programme préparatoire aux grandes écoles. Mm-hmm. Ce qu'on vient dire aux élèves, on est quatre ou selon les années, quatre ou cinq professeurs dans le programme, ce qu'on vient dire aux élèves, c'est voici leur juste par rapport à ce qui se passe dans le métier. Voici, ça sera pas facile. C'est un dur milieu. C'est horrible aller passer des auditions. Il y a 50 personnes pour un rôle. Tu vas en passer, tu vas te faire fermer la porte au nez très souvent. Mais si tu y crois, si c'est vraiment ta place, tu vas réussir à créer ton métier. On leur fait rencontrer énormément de gens qui n'ont pas leur nom sur les marquises, mais qui vivent de théâtre, des conteurs, des comédiens en théâtre jeunesse, des comédiens en théâtre région.
Le théâtre pour enfants qui se développe aussi beaucoup.
Qui est absolument extraordinaire. On a au Québec le plus beau du théâtre pour enfants. Il y a des troupes extraordinaires. J'ai eu le bonheur de travailler avec le Carousel pendant 5 ans. C'est une troupe absolument extraordinaire. Et Suzanne Lebeau, qui écrit la majorité des textes, est à mon sens la plus grande auteure de théâtre jeunesse qui existe au monde.
Vous avez beaucoup de jeunes qui s'inscrivent à ce programme?
On en a 60 par année. C'est énorme. Après 2 ans, parce que c'est un cours préuniversitaire, après 2 ans, il nous en reste peut-être une trentaine. 3/4 interprétation, 1/4 production. Et il y a peut-être 1/3 de ceux-là qui décident d'essayer de continuer. Je dis bien d'essayer parce qu'encore faut-il qu'ils soient admis dans une grande école. Mm-hmm. Et on ose croire qu'on en a peut-être 75% de ceux qui veulent continuer, qui vont réussir. On a dans toutes les écoles supérieures.
Quand vous parlez de grandes écoles de théâtre, on pense à quoi? Au conservatoire?
Les deux conservatoires, Montréal-Québec, l'École nationale, l'École supérieure de l'UQAM, de même que Saint-Hyacinthe et Sainte-Thérèse.
Et de ceux qui sont passés depuis 15 ans à Marie-Victorin, est-ce qu'il y en a qui ont réussi à faire une belle carrière et qui peuvent maintenant se targuer d'en vivre correctement?
On en a même plusieurs, énormément à Québec. Bon, vous allez me dire, c'est loin, on peut pas vérifier, mais pourtant oui, parce que à Québec, c'est bien connu, quand on sort du Conservatoire de Québec, il y a du travail pour les jeunes comédiens et les spectateurs de Québec sont des spectateurs qui sont fidèles à leurs acteurs. Il se fait peu de télé à Québec, donc ils vont voir leurs acteurs au théâtre. Mm-hmm. Mais à Montréal, bonhomme allant, j'en retrouve quelques-uns sur les planches, puis ça me fait plaisir. Quand je vois Catherine Trudeau jouer, je me dis, ben, coudonc, elle sort de chez nous, celle-là.
Alors, le sens de la réussite à travers la formation d'une relève.
Oui, oui.
Prochaine pièce, elle est de Yann Tiersen. C'est tiré du film L'histoire fabuleuse d'Amélie Poulain. Hacké. Une note sur cette pièce?
Oui, c'est le tourbillon. C'est la vitesse folle dans laquelle on doit entrer finalement pour faire tout ce qu'on veut faire. C'est cette espèce de trop-plein qui nous prend, mais un trop-plein absolument magique. C'est plein de rebondissements, c'est beau, c'est heureux, c'est extraordinaire.
«